le naufrage de l'Intermezzo, l'affaire Caspar et Beille. La découverte du corps entravé d'André Le Floch ne bouscule pas la ligne de défense de Thierry Beille et Corinne Caspar. Ou plutôt si. Il continue de nier, argue que le skipper n'a jamais été lesté, qu'il était simplement saucissonné à sa banette, vivant et sans son attirail de plomb. Le reste ne serait que malversation policière, visant à les incriminer. Ils peineront toutefois à expliquer les résultats de l'autopsie, pratiquée à partir du 20 août. La thèse de la noyade s'effrite, pas une goutte d'eau dans les poumons, les sinus, l'estomac. André Le Floch n'a pas respiré une seule fois dans sa cabine immergée. Il était mort bien avant le début du naufrage. On note des lésions autour des yeux, au niveau du nez, des traces de doigts sur le cou. On conclut à un décès par asphyxie mécanique, ou dit autrement, par strangulation. Reste la question de la préméditation, reconnue par le code pénal portugais si l'on compte un délai de 24 heures entre la préparation du crime et son accomplissement. Qui a eu l'idée de cette croisière ? André Le Floch, selon Maire, qui ne dirait pas non à un peu de compagnie ? Ou bien Caspar et Beille, les initiateurs, en pamoison devant l'Intermezzo, fomentant un mauvais sort à son maître ? On jette un œil en arrière. En France, l'OCRVP, Office central de répression des violences aux personnes, est chargé par l'instruction portugaise de mener une enquête de personnalité sur les deux ressortissants mis en examen. On ne connaît pas d'antécédents judiciaires à Corinne Caspar, née en 1958 à Rabat, au Maroc. Elle se marie à 18 ans, donne naissance à un fils, vit en Espagne avec son compagnon, ingénieur barcelonais. Après un divorce qui lui coûte la garde de son petit, elle repart en France, chez sa mère Carole, dans les Cévennes. Lui, Thierry, vient au monde sous X en 1955, adopté 2 ans plus tard par les Beille. 2 mariages, 2 enfants, 2 faits notoires dans son curriculum. Un service militaire dans la marine nationale, tiens, il y a peut-être appris à confectionner les nœuds de cabestan, et un maigre casier judiciaire, comprenant une condamnation pour vol, une autre pour agression, nous y reviendrons. Le Quai d'Orsay l'a confirmé, ils ne sont pas frères et sœurs. Alors que sont-ils et pourquoi le prétendre? Si le mystère ne captive pas les enquêteurs portugais, concentrés dans leur quête de vérité, elle fascine les médias, espérant pimenter une affaire déjà bien relevée. Un papier se vend toujours mieux quand il relate les méfaits d'amants diaboliques ou potentiellement incestueux. Au cœur du feuilleton et au micro des journalistes, Carole Caspar, la mère de Corinne, souffle le chaud et le froid. Aux premières heures, elle renie Thierry, le compare à un parasite infiltré dans leur vie depuis 10 ans, un imposteur qui joue les fils, les grands frères. Une semaine après le naufrage de l'Intermezzo, elle change la donne en se confiant à Julien Dumont, journaliste du Parisien. Coup de théâtre. En 1955, Carole a mis au monde un petit garçon. Elle était une très jeune mère célibataire, situation malvenue en cette époque lointaine, et avait pris la décision de le confier à l'adoption. 42 ans plus tard, le gamin, devenu adulte, vient frapper à sa porte, se fait passer pour généalogiste. Carole n'est pas dupe, confond immédiatement son fils. À la mort de sa mère adoptive, Thierry avait appris le nom de sa mère biologique, cachée depuis sa naissance. À force de recherche, il finit par la trouver dans les Cévennes et par renouer les liens. Là-bas, il pose ses valises, fait la connaissance de sa demi-sœur, Corinne. Eux s'entendent, se comprennent, fusionnent au détriment de leur mère, peu à peu mise de côté, manipulée par l'enfant revenu auprès d'elle. Après 10 jours, Carole ne supporte plus la présence vénéneuse de Thierry et lui demande de quitter la maison. C'est un peu tard. Sa fille Corinne s'est attachée. Elle n'en démord pas. S'il s'en va, elle le suit. Soit, les deux s'engagent dans une vie de bohème, coupent les ponts avec leurs proches, vivotent du RMI sur les routes de France. En 1999, on les retrouve dans le Gard, à l'orée du petit village de Rousson. Un centre d'accueil leur déniche un petit mas isolé, abandonné, à louer. Ils ne participent pas à la vie locale, demeurent reclus en pleine garrigue. Pas de travail, peu ou prou d'amis. Ils peinent à payer le loyer, leur propriétaire finit par couper l'eau et l'électricité, le litige se règle au tribunal. On se méfie de Thierry, type plutôt sanguin, capable d'attaquer à la hache un berger venu faire paître ses moutons un peu trop près, et décopé de quelques mois de prison avec sursis. Corinne Caspar et Thierry Beille ne laissent pas un bon souvenir à Rousson. Ils s'en remettront. En 2001, ils plient bagages et migrent vers l'ouest, dans les environs de Millau, vole en parapente au-dessus du viaduc en construction. Il voyage brièvement en Asie, se lance en vain dans la construction d'un bateau, regagne l'Europe, l'Espagne, vers Alicante, où Carole vit désormais. Dernière étape du carnet de bord. Caspar et Bey traversent la frontière portugaise, une dizaine de jours avant le naufrage de l'Intermezzo. Aujourd'hui incarcérés, séparés pour la première fois depuis 9 ans, ils noircissent des pages et des pages de courriers, destinés l'un à l'autre, à la presse, à leur famille. À sa mère Carole, Corinne martèle son innocence. « Maman, je te jure sur ce que j'ai de plus sacré dans ce monde, que ni moi ni Thierry n'avons fait ce dont on nous accuse. Souvent, depuis que je suis ici, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu me noyer cette nuit-là. Je me surprends à maudire l'instinct de survie qui m'a animé jusqu'au bout, surtout si j'avais su ce qui nous attendait. » Au journal Le Monde, Thierry, plus inspiré qu'à l'oral, narre avec précision sa version des faits, tramée sur le trimaran. J'entends crier Corinne et je me précipitais à l'ouverture du cockpit pour découvrir qu'André était en train de vouloir la forcer dans sa propre couchette. Je saisis le bout de l'écoute de grand voile, enroulai la corde autour du cou d'André pour le tirer en arrière. André lâcha Corinne et se retrouva assis sur le plancher. Il se retourna vers moi, un couteau à la main, et me menaça, hurlant qu'il allait nous tuer. Ils ne céderont pas, ni ne fourniront d'aveux. Ce, malgré les nombreux éléments à charge dégagés par l'instruction. Plusieurs témoins ont aperçu Corinne monter seule avec André, à bord du navire. Si le plaisancier nantais comptait l'agresser, pourquoi n'en a-t-il pas profité? Pourquoi a-t-il attendu la présence de Thierry, le début de la croisière? Quand celle-ci démarre le 15 août, un bateau-taxi transporte Corinne et Thierry jusqu'à l'intermezzo. Le pilote se rappelle du poids des bagages, des grands sacs de course, d'une quantité de provisions, d'alcool, impressionnante pour seulement 3 jours prévus en mer. Longtemps introuvable, leur voiture est finalement débusquée au nord du Portugal, en dessous de la frontière espagnole, dans une ruelle discrète de Villarreal. Une Opel Kadett 1,6 litre diesel, habitacle entièrement vidé, plaque minéralogique retirée. Là aussi, attention au double sens. Bey et Caspar larguent leur véhicule, n'y laissent aucun indice, descendent dans le sud et prennent la mer sans retour. Leur avocat, Antonio Villar, s'empressera de rappeler l'itinéraire de la mini-croisière. Admirer la Ria Formosa, longer la côte ouest, puis rallier Villarreal au nord, avant de repartir dans l'Opel, délesté entre-temps de sa plaque par quelques menus malfrats. Cela arrive. Les enquêteurs ont leur préférence sur le sujet, croient dur comme fer à la préméditation. En étudiant la téléphonie, ils découvrent qu'en date du 13 août 2006, l'ancien propriétaire de l'Intermezzo, domicilié aux Açores, a reçu 2 coups de fil de la part d'une femme, française, visiblement très intéressée par les caractéristiques du trimaran. Les 2 appels ont été émis dans les environs d'Oliao, là où, à cette même période, Corinne a rencontré le nouveau capitaine du navire. Le voilà, le scénario retenu par l'enquête. Comme tout le monde sur le port d'Oliao, Bey et Caspar remarquent l'intermezzo et se lient d'amitié avec son navigateur. Une fois au large, ils se griment en pirate, se débarrassent de lui et s'accaparent le navire. Certes, mais à quelle fin? Quid du mobile? Rejoindre l'Afrique, revendre le trimaran, disparaître? Comment se débarrasser d'un bateau aussi réputé, sortir indemne d'un contrôle douanier sans pouvoir montrer patte blanche et papier en règle? On le sent, l'hypothèse n'est pas infaillible, les incohérences sont légion. L'intermezzo, surtout, ne se conduit pas aussi aisément qu'un pédalo. Bey a beau avoir sévi dans la marine, s'engager en haute mer sans davantage d'expérience sur un trimaran de compétition n'est que pure folie. Qu'importe, l'accusation semble déterminée à porter le dossier aux assises. Elle le fera. Jusqu'où Thierry Bey et Corinne Caspar seraient allés si Mère Nature n'avait pas jugé opportun d'intervenir? Sans la tempête, leur crime aurait été parfait. Sans elle, ils ne comparaîtraient pas à la Casa da Justicia de Lagos, ce 10 juillet 2007, jugé pour homicide volontaire avec préméditation, vol, profanation et dissimulation de cadavres. Après 14 mois d'incarcération, chacun encourt la peine maximale, soit 25 ans de réclusion. Constitués partie civile, les fils Le Floch ont fait le déplacement, nerveux, impatients d'en découdre. Ils vont être déçus. Côté défense, en plus de leur avocat portugais, Antonio Villar, Caspar et Bey se sont offerts les services du ténor marseillais, Gilbert Collard, est-il besoin de le présenter ? Or, celui-ci demeure cloué sur le sol français, empêché de prendre son avion par un mouvement de grève. Ses clients refusent de poursuivre les débats sans lui. La juge Alda Casimiro leur rappelle que Maître Collard n'est pas inscrit au barreau portugais et qu'il lui serait de toute manière interdit de plaider. Ils ne veulent rien entendre, ils ont besoin de l'aura de Maître Collard pour médiatiser au mieux leur procès, stratégie à laquelle Maître Villard s'adapte moins. Lui se prend la tête entre les mains. Lui avait une autre carte à jouer. Bien au fait du dossier, il prévoyait de démontrer les failles de la version avancée par le ministère public pour accréditer la sienne. La tentative de viol, la légitime défense et l'accident malheureux, une fois la tempête éclatée, lorsque M. Le Floch, ligoté dans sa banette, secoué par les vagues, succombe, asphyxié par le bout noué autour de son cou. Il n'en aura pas l'occasion. Ses clients font un tel bazar qu'ils arrivent à suspendre l'audience. Évacuée de la salle, Corinne Caspar interpelle la famille de la victime. « Messieurs les enfants de M. Le Floch, je ne l'ai pas tué. » La séance reprend un mois plus tard. Maître Antonio Villard a rendu les armes, c'est un avocat commis d'office, moins préparé, moins impliqué, qui prend la relève. On l'entendra peu. Dès leur retour dans le box, les accusés tournent le dos à la présidente, s'adressent à l'Assemblée et le procès devient conférence de presse. Est-ce qu'il y a un journaliste français dans la salle ? Nous informons le public que notre collaboration avec le tribunal et la cour s'est arrêtée. Aujourd'hui, ils veulent nous condamner sans preuve, sans défense et sans parler des circonstances de la mort d'André Le Floch. On n'acceptera pas ce qui se passe ici. Les examens qu'on a demandés ont toujours été refusés. Nous sommes innocents et nous tenons à ce que les personnes présentes ici le sachent. Deux élèves dissipés, prenant la parole sans y avoir été invités, interrompant le récit d'un témoin à la barre, rebâchant la même litanie. Machination, complot, erreur judiciaire. André Le Floch n'est pas mort étranglé, récite Thierry Bey comme un psaume. Il est mort de froid dans le bateau, en attendant les secours. En résumé, Caspar et Bey s'abordent leur défense en beauté. L'accusation a un boulevard devant elle, et tant pis si leur thèse n'est pas parfaite, plus fondée sur des présomptions que des faits concrets, pétrie de zones d'ombre sur lesquelles Maître Antonio Villard aurait été ravi de s'épancher. Hormis les deux accusés, personne ne vient contredire le procureur sur le mobile incertain, sur ses raccourcis audacieux. Les doigts de la victime, par exemple, scotchés à l'aide de rubans adhésifs, dans le but de lui faire signer, de force, un compromis de vente. Peut-il le prouver ? Non, mais tout le monde s'en accommode. Le réquisitoire s'appuie essentiellement sur le rapport d'autopsie, sa pièce maîtresse. La parole du médecin légiste emporte les jurés. Les marques sur le cou sont celles des doigts d'une main. Le 14 décembre 2007, Thierry Bey et Corinne Caspar redoublent de véhémence, évacués à nouveau avant la lecture du verdict. La cour les reconnaît coupables, les condamne à 24 ans de prison. Tous les recours possibles échouent. Frères et sœurs restent détenus au Portugal et à ce jour, nul ne sait vraiment ce qu'ils deviennent. Médias et ex-avocats s'en étant désintéressés depuis longtemps. Leur trace disparaît au sortir de ce procès étonnant, contrarié, insatisfaisant. On espère qu'un psychiatre a pu poser un regard sur Thierry, nourrisson abandonné, en quête d'identité, tenir compte de l'emprise probable exercée sur sa mère biologique, sur sa demi-sœur. On s'interroge de fait sur le véritable partage des responsabilités dans cette affaire. Qui a eu l'idée ? Qui a tué ? Mystère, jamais ils ne se sont trahis, indéfectiblement solidaires. On craint le pire pour finir. Et s'ils avaient dit vrai ? La vérité, Corinne Caspar et Thierry Bey l'ont scellée au fond de leur canot de sauvetage, au lendemain du drame et de la tempête, en mer et seul au monde. On donnerait cher pour l'entendre.